Le masque et la plume. Bonsoir à tous, bienvenue en public au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité littéraire avec Dieu, Allah, moi et les critiques Patricia Martin des merveilleux petits matins du week-end de France Inter, Arnaud Vivian de Transfuge, mais également de Regard et surtout de la revue Charles avec Jean-Louis Hésine du magazine littéraire et avec Jean-Claude Raspienjas de La Croix pour parler de Dieu, Allah, moi et les autres de Salim Bashi, mais également de la nuit du second tour d'Éric Pessan, de Terreur de Yann Moix, du bureau des jardins et des étangs de Didier Decoin et de Danser au bord de l'abîme de Grégoire Delacour. Dans le courrier de la semaine, Annick Gevel signale à Jean-Louis qu'elle s'est offert pour Noël L'homme et le bois de Lars Meeting chez Gaïa, qui me faisait de l'œil depuis que vous l'avez recommandé. C'est l'histoire d'un homme qui tronçonne du bois,
c'est ça ? C'est en fait un livre de méthode scandinave pour entretenir son bois, le couper, le protéger.
C'est donc très utile.
L'homme a des rapports affectifs avec son tas de bois quand commence l'hiver. Oui, très important.
Ensuite, j'emprunterai, nous dit Annick Gevel, la tronçonneuse de mon mari, pour m'entraîner à couper l'eucalyptus de notre jardin qui me semble beaucoup trop haut. Et c'est signé votre très dévouée bretonne adoptée qui aime le kouign-amann et la graisse salée et le masque et la plume. D'ailleurs, c'est pas incompatible. Toujours pour Jean-Louis, d'ailleurs, Annick nous écrit, ayant beaucoup de temps libre, je me suis lancé dans un marathon des podcasts de l'émission. C'est pourquoi je réagis seulement aujourd'hui sur le conseil de lecture de M. Hésine, fait un jour d'août 2011 sur le merveilleux livre de Will Cuppy chez Wombat, Grandeur et décadence d'un peu tout le monde. Ça, j'avais oublié que tu avais conseillé ça. L'image d'Hannibal fronçant les sourcils ne quitte plus mon esprit. Je remercie M. Hésine de tout mon cœur, de lectrice, pour cette découverte qui fait également le bonheur de toute ma famille, que vive encore longtemps le masque et la plume. C'était quoi ce livre de Will Cuppy ?
Will Cuppy, c'était un humoriste américain qui chroniquait à la radio et qui écrivait des textes absolument délirants et que Wombat a réédité. Bon. Et ça, c'est une pure merveille.
Catherine Tessou de Lorient demande au masque de diffuser son coup de gueule. Et elle n'a pas tort, je dois avouer. Je suis lasse, nous dit Catherine Tessou, de voir les couvertures de romans métamorphosées par une photo de film dès lors que l'œuvre est adaptée et parfois maltraitée sur grand écran. Éditrice, éditeur, faites-nous plaisir en respectant l'auteur et le lecteur. Laissez la couverture originelle. Je n'ai pas envie de voir le visage d'un acteur ou d'une actrice qui, de surcroît, va influencer ma lecture et mon regard les personnages. Oui. N'est-ce pas prendre le roman pour une tranche de jambon et le lecteur pour un couillon ? Très rapidement, c'est à propos ridicule. Du roman de Tanguy Viel chez Minuit, pour lequel Arnaud était si injuste, Romain Dussuel nous précise que l'article 353 du Code pénal n'existe pas. L'intime conviction imposée au juré est inscrite dans l'article 353 du Code de procédure pénale. Même courrier de Daniel Boulmier. Je suis étonné que l'auteur confonde code pénal et code de procédure pénale et que la maison d'édition n'ait pas réagi. En fait, la vérité, c'est que dans son roman, il parle bien du code de procédure pénale. C'est le titre qui est simplement une abréviation. Non. et puis pour finir joliment ce début d'année, un joli message de Clément Libio. J'ai 24 ans et j'aimerais vous exprimez ma gratitude, votre émission m'a redonné le goût de la lecture. Tout le dimanche soir, je vous déguste donc comme une religieuse au chocolat. Pourquoi au chocolat, je ne sais pas. Et vous digère comme un roi repu de son festin. Encore merci et longue vie à vous. Allez, on commence avec ce qui va être évidemment le succès de un des succès avec le Pénac de ce début d'année. C'est le nouveau roman du chouchou des lecteurs, j'ai nommé Grégoire Delacour. Et sont dansés au bord de l'abîme, c'est chez Lattès. C'est l'auteur, vous vous en souvenez, notamment de La liste de mes envies. Et de On ne voyait que le bonheur. L'héroïne dans la peau de laquelle Delacour se glisse aujourd'hui se prénomme Emmanuelle, alias Emma. Et cette Emma, eh bien, elle bovarise, mais a bondu au nord de l'île, à la quarantaine. Elle est mariée à Olivier, qui est un concessionnaire automobile réchappé d'un cancer. Et ils ont trois enfants assoupis, là je la cite, dans le ressac de la médiocrité. Qu'est-ce qu'il y a, Patricia ?
Non, parce qu'avec Arnaud, on ne le trouve pas complètement réchappé du cancer.
Et sa vie change lorsqu'elle rencontre Alexandre, un journaliste de La Voix du Nord, avec qui elle découvre le vertige de l'amour fou. Alors de la cour, il en appelle la chef de Monsieur Seguin. Et en couverture du roman, il y a cette bande qui pose la question fatidique : que risque-t-on quand on risque tout ? Phrase que vous allez peut-être méditer ce soir, et en rentrant chez vous.
Lui qui va la méditer.
Jean-Louis, tu as regardé ce roman ?
Oui. J'ai d'ailleurs regretté qu'on ne soit plus à l'époque où au titre s'ajoutaient des sous-titres. Tu sais, il y avait une mode, ce qui a duré d'ailleurs des siècles, Knock ou Le Triomphe de la médecine, ou Émile ou de l'éducation.
C'est un peu ancien quand même.
C'est un peu ancien, oui. Et là, pour danser au bord de l'abîme, j'aurais proposé danser au bord de l'abîme ou tutu-pampan. Qui résume bien mieux l'esprit de la chose que danser au bord de l'abîme. Encore que, au bord de l'abîme, c'est vrai que le dernier de la cour y était déjà. Et là, je dirais qu'il a fait un grand pas en avant pour tomber dans ce qu'on appelle couramment l'indigence. Alors, l'indigence, bah oui. On parle d'indigence quand une personne manque des choses les plus nécessaires à la vie. Oui. Mais là, il manque des choses les plus nécessaires à l'écriture, en gros.
En même temps, si tu permets, j'ai l'impression que, contrairement à ses autres livres, où il en retirait, là, il en rajoute beaucoup. Je trouve qu'il y a des envolées.
De l'indigence, tu veux dire ?
Des envolées poétiques, lyriques qu'il n'avait pas auparavant.
Ah, j'ai pas noté ça.
Non, t'as pas noté ?
J'ai noté tout de suite, en revanche, que l'héroïne se prenait pour une chèvre.
Oui, c'est l'allusion à M. Seguin.
Ce qui était extraordinairement romanesque.
C'est métaphore. Hein.
Oui, non, mais c'est très romanesque, certainement. Oui, en plus. Mais comme il pense que la chèvre de M. Seguin n'est pas connue de ses lecteurs ordinaires, je ne sais pas si vous avez vu, mais le roman est suivi du conte d'Alphonse Daudet, en post-scriptum.
Ce n'est pas ce qu'il y a de pire dans le livre, d'ailleurs. Daudet, ce n'est pas ce qu'il y a de pire dans le livre.
Oui, absolument. Il y a une chose qui est absolument redoutable, qui est une chose qui traîne un peu comme ça dans les cabinets de psychologie, les magazines féminins, les je ne sais pas quoi, c'est le lâcher-prise. Alors, ce que je voudrais dire aux lecteurs, c'est surtout, méfiez-vous d'un écrivain ou d'un romancier qui vous parle de lâcher prise dès la page 15. Là, il faut fuir tout de suite, parce que là, on est vraiment...
Patricia. Alors,
on n'est pas seulement dans l'indigence, aussi, je dirais, dans la mièvrerie.
Oui, mais Patricia.
Voilà.
Eh bien, je suis bien embêtée. Je ne sais pas vraiment quoi penser.
En bref, c'est un lavement, en fait.
D'un côté, j'ai envie
parce que,
de dire...
Oui, non, je dis un lavement parce que...
Non, Jean-Louis.
Tout part d'un coup, comme ça, dès la page 15.
Jean-Louis.
C'est pas la
Jean-Louis.
Peine de tourner la page Jean-Louis. 16.
D'abord, voilà. Les citations, parce qu'il n'y a pas que la chèvre de M. Seguin de la fin, il y a aussi toutes les citations qui...
Mais dès le début.
Voilà, dès le début. Et je trouve que ça donne certainement une ampleur qu'on attend un peu au livre. Il a un côté tout à fait insupportable, ce roman, parce que c'est bourgeois, c'est bien pensant, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait...
Puis certes, l'histoire n'est pas neuve.
L'histoire n'est pas neuve, mais enfin bon, il y a jamais que de vieilles histoires, tu me diras. Mais il y a ce qu'il faut de morale, de culpabilité. Je parle de nous, souviens-toi, au début, ça a été difficile. Bon, comment est-ce que, sur tous les trucs, comment est-ce qu'on s'approprie sa propre histoire, sur la cristallisation amoureuse, sur le désir fou, qui est évidemment le moteur de la vie, sur qu'est-ce qu'être femme, comment est-ce qu'on est à la fois femme et mère, il y a une dose d'aspiration, deux doses de déception et trois de regrets. À un moment donné, on dirait vraiment du mauvais Gavalda au moment où elle est dans un camping et elle se retrouve avec une dame qui s'appelle Mimi qui tricote des pulls comme son fils a disparu. Je ne vais pas en raconter plus, mais elle tricote des pulls de toutes les grandeurs.
Comme c'est ça, Pénélope, quoi,
quel
en fait,
que soit le moment où le fils reviendra, il entrera dans un des pulls en fonction de sa taille. Bon, alors c'est vrai que tout ça est absolument insupportable.
Il faut rappeler qu'il se met dans la peau de cette femme.
Il se met absolument dans la peau de cette femme. Ce qui est quand même pas trop raté, je trouve même plutôt réussi.
Tu trouves ça crédible, ça, sérieusement ?
Oui, franchement, c'est crédible. Alors, ça vole pas haut, bien sûr. Ça se lit, de toute façon, ça se lit comme ça en une soirée. C'est pas... Tu parlais d'indigence, je crois, Jean-Louis. Moi, j'irais pas jusque-là. C'est supportable. On va dire que c'est supportable. Et je comprends très bien qu'il y ait des gens à qui ça plaît. C'est quand même pas mal ficelé. C'est de plus en plus long. C'est
Jean-Claude,
je sais pas quoi dire, là.
C'est ça qui, quand ça fera 500 pages, là, je pense que ça me tombera sur les pieds.
Alors, Jean-Louis, lui, il dit, il parle de lavement dès la page 15. Alors, moi, j'ai tenu jusqu'à la page 40. Je précise bien, jusqu'à la page 40, j'étais un peu comme Patricia. Je me dis, tiens, Peut-être, après tout, bon, c'est le roman du désir dans la classe moyenne aujourd'hui, les frustrations sociales, les destins inaccomplis, qui s'étiolent dans le silence, on vit par habitude, par conformisme, par convention, par devoir, par habitude. Bon. Mais seulement à la page 40, elle commence, elle se met à danser dans la rue, on ne sait pas pourquoi. Elle va le refaire plein de fois, et en plus, non seulement elle danse, ce qui est déjà assez insupportable, mais en plus elle danse en souriant et en riant. Alors, clicheton, mièvrerie, c'est parti. Page 41, on se dit, bon, il a fallu passer ce cap-là. Page 41 en face, l'inextinguibilité de mes larmes était effrayante. Et là, on se dit, oh là, là, on est à la page 41, il y a encore 320 pages à se cogner. Quand elle rentre chez elle.
Gros caractère,
oui, mais gros caractère, mais quand même. Alors, elle rentre chez elle, elle est sur le point de. Elle rentre chez elle.
C'est un roman pour Ambliop.
Alors, elle rentre chez elle, elle est sur le point de se séparer avec son mari, donc c'est un moment assez dramatique, et il décide de commander des pizzas. Et alors? On a le détail. Donc, ils commandent tous les deux, avec les enfants, une calzone, deux margaritas, une forestière, une hawaïenne. Et vous savez quoi?
Faut jamais prendre la hawaïenne.
Il faut jamais prendre la hawaïenne. Alors, on a pas.
On a été déçus avec Jérôme. Alors,
dans les très bonnes pizzerias.
C'est trop salé.
Alors, on n'a pas le prix. On sait pas combien ça leur a coûté. Mais ce qu'on apprend, c'est qu'après les pizzas.
Ils regardent une série à la
télévision. Non, son mari a voulu faire l'amour. Mais oui.
Eh ben oui. Évidemment. Jamais après la hawaïenne.
Voilà. C'est ça. Alors là, on est à la page 76. Il reste 300 pages. D'accord? Je vous saute certains trucs. Et alors, page 312.
C'est là où ma canule rectale pourrait être d'une certaine efficacité.
Bon, on va essayer de. Non, alors, non, c'est page 312.
C'est pas un roman, c'est un clister.
Il fait des petits chapitres. Page 312. C'est juste un chapitre qui tient sur une ligne. Je vous le donne en mille. Emma. Emma, le prénom. Emma, du verbe aimer. D'accord? Et là, vous savez quoi? Ben, j'ai eu envie de commander des pizzas, là. Moi, j'ai eu envie de commander des pizzas. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que pour moi, si vous voulez, c'est une sorte de Saint-Exupéry du Razmode, quoi. C'est-à-dire, il manque pas de sensibilité.
C'est méchant pour Saint-Ex.
Oui, mais surtout que je ne cherche pas à être méchant avec Saint-Ex, parce que j'aime bien Saint-Ex, vraiment. Mais, il manque pas de sensibilité de la cour. Mais le problème, c'est que c'est de la sensibilité qui est un peu mal dégrossie. Qu'il voudrait que ça soit dramatique, mais il charge tellement que ça ne l'est jamais. Bon, c'est plutôt rasoir et c'est même dérisoire.
Arnaud.
Après nous avoir raconté l'histoire d'un homme qui tuait ses trois enfants et puis partait sereinement refaire sa vie à l'autre bout du monde, on a quand même là et maintenant quelqu'un qui nous raconte une femme qui abandonne ses trois enfants pour aller éplucher des patates dans un camping.
Enfin, c'est pas pour ça qu'elle a quitté son mari.
Mais je serais les enfants de Grégoire Delacour, je m'inquiéterais un tout petit peu. D'ailleurs, j'ai vu que à la fin, il les remercie en disant je m'excuse pour les deux années que je vous ai fait vivre. Donc voilà, c'est ça qui me toujours m'intéresse avec Grégoire Delacour, c'est que on sent quelqu'un qui est travaillé par des pulsions. Vraiment, hein.
Il vaut mieux qu'il les écrive, au moins il les évacue.
Voilà, il les évacue. Mais alors bien, justement, là on en est au lavement, l'évacuation, etc. On y est bien.
Danser au bord de l'abîme, le roman que vous allez tout de suite aller lire, c'est chez Lattès et c'est Grégoire Delacour. Le bureau des jardins et des étangs, c'est un roman de Didier Decoin qui paraît chez Stock. Là, l'auteur de John Lanfer, prix Goncourt 77, ça ne nous rajeunit pas, Jean-Louis, il part cette fois pour l'Empire japonais du XIIe siècle, un roman qui souffre par la mort d'un pêcheur, Katsuro, qui était le fournisseur officiel de carpes pour l'empereur, et qui s'est noyé ses ballots dans la rivière Kusagawa, sa veuve de 27 ans, Miyuki, dont la vie se résumait à attendre l'homme qu'il avait épousé, va alors finir le job et vouloir une...
Pas dernière... simplement l'attendre, hein, quand même. Hein.
Là, non, mais là, je citais une phrase de Didier Decoin. La vie se résumait à attendre l'homme qu'il avait épousé. Donc,
on sent que ça te fait envie, ça.
Miyuki finit le job et veut une dernière fois livrer 8 carpes à son empereur, qui n'a que 15 ans, et dispose d'un bureau, des jardins et des étangs. Et donc commence un long périple de Miyuki jusqu'au palais impérial, qui va se transformer évidemment en voyage initiatique, où elle affronte un tas de choses, des dangers dans la forêt, des brigands, des monstres aquatiques. Et une fois sa mission effectuée, elle va participer dans la capitale à un étrange concours de parfums. Ce roman de coin, il précise à la toute fin du livre qu'il l'a commencé en 2004 et terminé en juillet dernier, soit quand même 12 ans de travail. Mmh. Arnaud.
C'est intéressant, Didier Decoin fait partie de l'Académie Goncourt. On se demande ce qu'ils ont à l'Académie Goncourt. C'est qu'il y a 2 ans, Patrick Rambaud nous a fait un faux roman chinois qui devait se passer.
Ah oui.
Oui. Là, on a le faux roman japonais qui se passe au 12e siècle, c'est
oui,
ça?
Oui, 12e siècle. Crois,
oui.
Au milieu du 12e siècle.
On se demande si Virginie Despentes ne va pas nous faire une épopée médiévale ou des laits provençaux dans un futur proche. Je sais pas, ils ont fait un pari ensemble, à mon avis. À qui fera? Parce que c'est quand même difficile de faire.
Il y a un courant asiatique chez Drouan.
Oui, enfin, oui, il y a un courant, en tout cas, revivre. globaliste. Parce que c'est un travail d'imitation, finalement. Ça doit être très compliqué, d'ailleurs. 12 ans, c'est pas grand-chose pour se mettre dans la peau d'une paysanne japonaise du XIe siècle, comprendre ce qu'était alors la civilisation. Quand on voit le titre, on se dit, on va vraiment s'emmerder. Hein. Et en fait, c'est... Mais érotique, bondage, plein de SM, de filles accrochées, de décapitation, de mère maquerelle qui torture. C'est que, et elle ne pense qu'au sexe qu'elle faisait avec son mari. Et donc, c'est une espèce de traversée, soi-disant, avec des poissons, des carpes, etc. Tu parles, oui, c'est un truc, tu lis ça d'une main en disant, mais c'est le jardin des supplices. Ah bah oui, moi, la perversité japonaise, quand même, le Japon et la Chine, d'ailleurs. Hein.
Toi, tu es très SM, toi. Hein.
C'est... Ah oui, j'adore ça, oui. Mais... Moi, j'adore...
La privation.
C'est bien de pouvoir exprimer sa perversité dans des activités consensuelles et consenties. Donc, et là,
comme
là,
le masque
moi,
et la plume, quoi.
Avec Didier Decoing, on a trouvé quand même un écrivain qui retrouve l'érotisme pervers japonais. On attend le film. Enfin, moi, je personnellement, j'attends le film.
Jean-Claude.
J'ai trouvé que c'était un livre tout à fait réussi. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre.
Ah, voilà.
Le film viendra. Non, parce qu'on est vraiment au cœur de l'Empire des signes et de l'Empire des sens, en effet. Et je trouve que c'est un livre... Alors, pour le coup, la matière du livre, c'est vraiment un livre physique, charnel, sensuel, olfactif. Et c'est pas la moindre des gageures que d'arriver à rendre
poisson,
compte, hein.
Non, c'est vrai.
Mais pas que. Mais pas que, justement. Ouais, pas non, que, mais... justement.
Enfin, pendant les scènes d'amour, ça sent le poisson.
Oui, mais enfin, pas que, je vous dis.
J'aurais pas osé le dire, mais...
Patricia Martin, c'est de
France. Quand il sort de l'eau et qu'il a pêché des carpes toute la journée, il sent le poisson.
La fille parle du sexe de son mari plein d'eau et de mucus. Je dis, mais comment il a du mucus sur le sexe? Ça, j'ai pas bien compris.
Tu vois, tu dis pas des bêtises.
Voilà. Non, mais c'est vrai que... Et du coup, il y a beaucoup d'odeurs, effectivement, dans ce livre. C'est un livre...
Alors, vous avez l'air de faire les finaux, tous les deux. Du genre, ben nous, on sait lire, on a vu le truc et tout ça. Sauf que je vous rappelle qu'au moment du concours de parfum avec l'empereur, ce qu'elle porte sur elle d'odeur de poisson... fait que il va se passer quelque chose et c'est pas indifférent qu'elle sente le poisson. Donc les deux finaux là du genre, mais nous on l'a bien vu qu'elle sent le poisson là.
Que ça sentait le poisson.
Oui, non mais d'accord, du genre voilà, ça fait partie des ingrédients
comme odeur, si tu veux.
Ça fait partie des ingrédients du livre. Donc ne faites pas les malins qui auraient découvert le truc qui était sous le... c'est une donnée du livre, c'est même une donnée importante.
Donc je reviens à ça,
on sent très très bien les odeurs de nature, les odeurs de pluie, l'eau. Le concours de parfum est absolument extraordinaire, la traversée du Japon.
Alors ça, je sais pas, est-ce que c'est inventé, le concours de parfum?
Il paraît que non. Ça existe.
Ça existe vraiment? Parce que c'est vrai, c'est formidable.
Ce qui est inventé, c'est la description de ce que souhaite l'empereur et ce qu'ils arrivent à obtenir de ce parfum. Ben ça, c'est forcément inventé de la part d'Idée de Coin. Et là, franchement, chapeau.
Parce que ce que souhaite l'empereur, c'est le passage, je cite, le passage furtif d'une demoiselle sur un pont lune entre deux brumes.
Débrouillez-vous avec ça.
C'est un haïku, en fait.
Débrouillez-vous avec ça, avec une héroïne qui sent le poisson.
Parfumé.
Patricia.
Je voudrais juste dire, c'est quand même aussi un livre sur... C'est aussi un livre, tu as dit initiatique, mais c'est aussi un livre...
Je parlais du périple pour arriver à...
Bien sûr. Et c'est aussi un livre spirituel, c'est-à-dire que la relation avec les dieux, il y a 800 000 dieux. Oui, il y a 800 000 dieux.
Non, 8 000 dieux.
Moi j'en ai
800 000. 8 000.
Mais enfin, il y en a partout. Et c'est un livre très spirituel sur les relations avec l'au-delà. Voilà. Moi, je trouve que c'est un livre tout à fait réussi. J'ai beaucoup aimé ce livre et bravo.
Patricia. Chapeau.
Les dieux et les esprits qui se cachent, y compris dans les espadrilles. Enfin, c'est absolument... Oui. Non, c'est incroyablement exotique. Et sur les odeurs, là, on a plaisanté. Mais parce qu'en même temps, évidemment, quand on parle de ça, on peut se dire que c'est grenouille du parfum de Suskin. Mais en fait, non, c'est l'antique grenouille, Miyuki. Parce qu'elle est d'une sensualité, on la devine quand même. D'abord, elle est très jeune. Ils sont tous très jeunes.
Elle est chaude.
Oui, elle est chaude. Elle aime ça.
Mais surtout depuis que son mari est mort.
Et même quand elle est toute seule, elle aime ça. C'est vrai, c'est une grande sensualité.
L'empereur, il a 15 ans. Hein.
L'empereur, il n'est même pas muet encore. Ouais. C'est fou. Ils sont tous très, 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 très jeunes. Non, mais sur la subtilité des odeurs, à un moment donné, quelqu'un dit que ça sent l'œuf. Et quelqu'un d'autre répond, le jaune ou le blanc? Moi, je trouvais ça absolument extraordinaire. Non, mais si, ne sois pas navré. C'est quand même extrêmement subtil. C'est très précis. Il y a une diversité absolument incroyable sur les parfums. Et puis, je trouve que sinon, quand je disais que c'était exotique, c'est parce que non seulement, c'est un univers qu'on connaît pas, dans un temps dont on n'a pas idée, avec des concepts comme qu'est-ce que c'est que le bonheur, l'amour, la tradition, la fierté pour ces gens, mais on n'en sait rien, et probablement deux coins ne savait pas mais non plus.
C'est là où je suis d'accord avec Arnaud, le boulot qu'il a fait
est absolument incroyable.
Chaque page est pleine de détails historiques.
Extrêmement pointu.
Je sais pas où il les a trouvés. Et
puis 12 ans, quand même, 12 ans de lecture. Oui. Il donne la liste, la bibliographie à la fin.
L'art de la description, quand même. Il a des descriptions de, par exemple, des robes. Elles portent 12 robes les unes sur les autres, ces femmes. Des robes toutes transparentes, mais qui, évidemment, à force d'être mises les unes sur les autres, ne le sont plus. Mais c'est on perçoit le voile de ces robes. Sa description de la neige, du vent, de la lumière.
Non, c'est
soleil.
Un sacré boulot littéraire.
Ah oui, vraiment.
Jean-Louis.
C'est un très beau livre.
Ça sent peut-être l'œuf, ça sent peut-être le poisson, mais ça sent pas la blanquette. Et je vous dis parce que...
je crois que tu as dit l'essentiel. Oui,
vous savez ce que disaient des proches ? Pour se nourrir, les Japonais mangent du riz sans blanquette, j'en ris encore. Oui, pardonnez-moi, ce mot m'a traversé l'esprit en vous écoutant parler des odeurs. Moi, j'ai adoré ce roman de A à Z. Ce roman qui est un véritable roman, et je me disais, mais franchement, après la mort de Michel Déon, Didier Decoing fait partie vraiment des derniers Mohicans. Quoi.
Il sait y faire.
Vraiment y faire, et depuis toujours. Un romancier, il n'y en a pratiquement plus de romanciers.
C'est vrai.
C'est-à-dire vraiment un type qui est un créateur d'univers, à chaque phrase, chaque phrase, c'est une image magnifique. Et il y a tout ce travail que vous avez souligné, vraiment merveilleux. En plus de ça, j'ai rien à ajouter à ce que vous avez dit, sauf peut-être un génie qu'il a, Didier Decoing, des portraits féminins. D'ailleurs, son œuvre,
tous ses livres sont pleins de ça.
Pratiquement tous ses livres. Oui. Au début, j'avais noté quelques titres, mais il faudrait les noter tous. La femme de chambre du Titanic, une Anglaise à bicyclette, Laurence, enfin bref, il y en a plein. Et le portrait de cette héroïne, cette fille qui n'est jamais sortie de son village.
Et qui va faire 400 kilomètres.
Et qui va faire 400 kilomètres avec ses deux paniers pleins d'eau et de carpes baillantes, c'est une merveille. Quoi.
Chez Stock, on vous conseille le Bureau des Jardins et des Étangs, et c'est signé Didier Decoing. Et je signale quand même que le fils de Didier Decoing, Julien Decoing, qui est assistant réalisateur de cinéma, signe également au même moment un roman au seuil qui s'appelle Soudain le large et qui commence aussi par une noyade, mais cette fois dans la Manche. Comme quoi, il y a une jolie hérédité à la fois maritime et littéraire chez les Decoing. Le grand-père de Julien Decoing n'était pas le dernier des cinéastes, ni d'ailleurs des écrivains, parce qu'il a aussi écrit plusieurs romans de qualité. En cette année d'élection, voici chez Albin Michel La nuit du second tour, un roman de politique-fiction mais assez imminente, d'Éric Pessan, qui sans jamais le nommer imagine la victoire au second tour de la présidentielle d'un parti d'extrême droite. Alors colère évidemment immédiate des opposants, le pays sans dessus-dessous, Paris brûle, et David, donc, qui est le personnage principal, dont la voiture a été incendiée, marche au milieu des ruines. Et pendant ce temps-là, son ex, Mina, qui est l'autre personnage du roman, est totalement coupée du monde, puisqu'elle a embarqué sur un cargo à destination des Antilles, en emportant d'ailleurs avec elle des bouquins de Melville et surtout le Quichotte. Et Pessan va alterner donc tout au long de son roman les deux récits, celui de David, qui a le mal de terre, et celui de Mina, qui a le mal de mer. Cela dit, moi j'ai moins appris sur la politique que sur ces cargos, qui sont ces incroyables, ces véritables usines d'ailleurs qui raffinent leur propre carburant et où sonnent toutes les 10 minutes, alors je ne sais pas si c'est vrai, toutes les 10 minutes, l'homme mort, qui est un système qui permet de s'assurer que le navire est encore sous contrôle humain.
Comme dans les trains.
Mais je ne savais pas que ça existait sur les cargos. Mais toutes les 10 minutes. Et si tu ne réponds pas, évidemment, il y a un signal d'alarme. Et d'ailleurs, à la fin du livre, il signale Pessan qu'il a effectué lui-même un séjour sur un porte-conteneur entre Dunkerque et Pointe-à-Pitre. Patricia.
Moi, j'ai beaucoup aimé moi, j'aime bien ce qu'écrit Pessan, d'une manière générale. Je trouve qu'il sait très bien raconter la vie ordinaire des gens ordinaires. Alors, en fait, il invente pas grand-chose. On se dit, il n'invente pas une réalité, mais il pointe toujours ce point de l'existence qui est un révélateur pour un homme ou pour une femme. Chacun finalement est dans sa bulle, et là c'est carrément des histoires parallèles entre cet homme et cette femme. Ça aussi c'est récurrent chez lui. Chacun est enclos sur lui-même, c'est l'expression qu'il emploie dans ses livres.
Le titre laisse entendre que le vrai sujet c'est le second tour de la présidentielle.
Mais en fait non, c'est pas ça du tout. Mais c'est pas du tout ça. Chacun au fond, parce qu'on se dit aussi ce couple, pourquoi est-ce qu'ils sont plus ensemble, etc. Donc on sait bien que quelque chose sur leur mode de fonctionnement justement n'a pas marché, sur le fait que au fond c'est très oppressant. C'est un livre, je trouve, sans illusion, qui est très mélancolique quand même, hein. C'est une vision très mélancolique.
Sans illusion sur la prochaine élection.
Non, mais sans illusion sur le genre humain en général et sur le monde extérieur qui est horriblement oppressant. Et alors ça fonctionne comme ça, comme chacun est pris dans un tourbillon personnel, sauf à quelques chapitres, dont le premier d'ailleurs, il y en a d'autres dans le livre, qui est absolument génial. C'est une chorégraphie, c'est-à-dire une polyphonie, mais chacun fait son truc dans son coin. Et je trouve que c'est, sur le plan littéraire, une réelle réussite. Il y a vraiment un univers chez Pessan.
Des pages poétiques, enfin avec des phrases qui sont presque des poèmes.
J'ai remarqué ça. Il y a absolument.
Arnaud.
Qui sont en Italie.
Ouais.
Non, t'as pas aimé.
Non, tu as raison. Le plus intéressant, c'est le cargo.
C'est le paradoxe, parce que la bande de couverture, qui est une ville incendiée, et le titre.
Ça n'a aucun intérêt. Le plus intéressant, c'est le cargo. Il y a une très belle scène où... soudainement, ils ont du réseau sur leur portable.
Oui.
Tout l'équipage.
Près du Nil.
Oui, parce qu'ils passent près des Açores.
Près des Açores.
Ils ont 10 minutes de réseau et tout l'équipage appelle les membres de leur famille, etc. Ils sont en pleurs parce qu'ils savent qu'après, ils n'ont plus de réseau. Parce que là, c'est un bateau qui fait Paris, enfin, qui fait la France, Guadeloupe. Ils en ont pour 30 jours, je crois, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Et donc, sans communication, on voit qu'il y en a qui n'ont pas de chance, hein. Souvenez-nous, on parlait de Julien Blangras, son éditeur lui prête un bateau pour faire une croisière au Groenland. Pessan, lui, il fait une résidence d'écriture dans un cargo. Vous imaginez, là. Ça n'a pas été une sinécure.
Et en fait, elle apprend, donc Mina apprend les résultats de l'élection présidentielle, parce que le commandant, évidemment, diffuse la nouvelle,
voilà,
grâce à son réseau. Mais sinon, serait impossible de savoir.
Ils sont vraiment coupés du monde. En revanche, toute la partie, entre guillemets, politique, est, à mon avis, sans intérêt. D'abord parce que la nuit du second tour, il ne se passera rien. Ça, je peux vous le dire tout de suite, il ne se passera rien du tout.
Pourquoi tu dis ça?
Mais parce que l'élection présidentielle a lieu en 4 tours. Il y aura ensuite les législatives. Le moment important là de 2017, c'est pas la focalisation sur la présidentielle, c'est les législatives. Le peuple pourra réellement s'exprimer.
Oui, mais alors que
c'est
dire,
là
mais
où
mais
ça
mais
va se passer. D'ailleurs, je vous l'annonce officiellement, je me présente à la législative d'ailleurs. Non, c'est
mais
vrai.
Mais tu rigoles.
Sans blague.
Attends.
Non, non. Mais bien sûr, vous allez voir. On en parle là. Là, on est en janvier.
C'est
2017,
toi qui
va voir. Vous verrez, ce qui va se passer, c'est la législative. Et encore
attends,
une fois,
mais tu plaisantes. Enfin, le résultat du deuxième tour présidentiel, évidemment qu'il va se passer quelque chose, et on espère que ça ne sera pas ce qu'il
est. Et ce qui se passera, c'est qu'il y aura la législative après le second tour de l'élection.
Oui, mais après, il y aura les cantonales, mais c'est pas
voilà
ça.
Voilà ce qui va se passer. Moi, je me présente en candidat libre comme au bac.
Jean-Claude.
Voilà.
Non, moi je suis.
Sans étiquette.
Sans étiquette, candidat libre comme au bac, c'est mon slogan de campagne.
Non, je suis tout à fait d'accord avec Patricia. Je l'ai lu comme Patricia, c'est-à-dire j'ai été emballé par le premier chapitre. J'ai adoré cette série de scénettes. Qu'est-ce qui se passerait au deuxième tour si un parti d'extrême droite gagnait? C'est évident que ça se passerait comme il le raconte. Voilà. Et quelles que soient les personnes qui sont prises dedans, qu'elles soient pour ou qu'elles soient contre, ça se passera exactement comme ça.
C'est une violence. Inouïe, hein.
Oui, une violence inouïe. Alors moi, je suis très sensible, et extrêmement d'ailleurs, à la mélancolie de ce livre, à son fatalisme, à la façon dont un État, une société se désagrège.
Regarde les Américains, ils ont élu Trump, ils n'ont pas moufté, quoi. Je veux
dire, on n'est pas américain.
Rien du tout. Mais non, il ne se passera rien.
Oui, alors sur la désillusion, il faut quand même expliquer que si son ex embarque sur ce cargo,
c'est parce
qu'elle a pressenti les résultats et qu'elle n'a pas voulu assister à ce désastre-là.
Et elle en veut au commandant qui, justement, lui donne le résultat alors qu'elle aurait préféré le fuir le plus longtemps possible. Bon. C'est cette mélancolie, ce fatalisme, ce côté... Il répond à sa façon à la question qu'on est en train tous de se poser. On se l'est posée sur Trump, mais on n'est pas américain. On est en train de se la poser sur ce qui est en train de nous arriver, quoi qu'il arrive. C'est qui est responsable? À qui la faute? Et ce qu'il explique très bien dans ce livre, c'est qu'on est tous responsables de ce qui s'est passé là, de ce qui va nous arriver, d'une façon ou d'une autre, et que on est tous atteints, et que c'est un processus de destruction qui est à l'œuvre dans la société, qui avance sans bruit, qui grignote tout. les rapports entre les gens, le langage. C'est un roman sur ce qui est en train aussi de nous arriver, c'est-à-dire que les vannes du pulsionnel se sont ouvertes. Alors Trump s'est manifeste, Berlusconi ça l'était, Sarkozy c'était pas loin. Aujourd'hui dans la société, les vannes du pulsionnel se sont ouvertes. Et ce livre raconte ça sous couvert d'intimisme, de romans d'amour, de descriptions très légères, très douces, mais déjà plombées. Tout dans ce livre.
Avec un préambule, puisqu'il dit au début, je ne donnerai pas la parole et je ne parlerai pas des partisans du parti qui a gagné. Je ne donne la parole qu'aux opposants.
Bien sûr. Je voudrais juste dire que c'est un livre inquiétant au ton vraiment juste.
Jean-Louis.
Je suis pas du tout d'accord. Alors là, vraiment, au cinéma, on a les films catastrophes. Et là, on a un roman catastrophe. Mais je dirais qu'au fait d'être un roman donc catastrophiste, s'ajoute un détail qui n'est pas négligeable, c'est que c'est un roman catastrophique. Surtout. Je veux dire, qui n'a pas les moyens de sa politique, enfin, qui la joue sérieusement, mais bon, sérieusement, mais lourdement, quoi, je veux dire. C'est un espèce de marchand d'aventure, mais qui n'a pas les moyens de sa politique. Vraiment, c'est tellement absurde.
Il prétend pas à ça.
C'est tellement absurde. Mais si, qu'il rend inopérante, comment dirais-je, et comique, la peur qu'il voudrait instiller en nous.
Je vois pas ce que ça a de comique.
Ben si, je veux dire, il joue quand même sur un scénario catastrophe, donc il joue avec, il veut faire vibrer le ressort de la peur en nous, et ça ne marche pas du tout. Je veux dire, je dirais même que cette peur, il nous en prive quelque part. De même qu'on, quelquefois, on prive l'enfant d'une terreur délicieuse qu'il attend comme ça, comme dans un conte. Ça m'a fait penser à une scène qu'on a tous vécue. Tu es dans une voiture décapotable, survolée par un hélicoptère et poursuivie par un char d'assaut. Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, à ce moment-là, tu dois donner ton ticket au monsieur du manège. Ouais, tu vois, alors, en gros, c'est ça. Oui, mais là, l'auteur, il est là. C'est le monsieur qui passe avec son ticket de manège qui est cet esprit de sérieux dont il, parce que cette menace, il y croit vraiment, etc. Mais il n'a pas du tout les moyens de la décrire.
Tu ne la sens pas, la menace, toi?
Moi, je peux la sentir, oui, mais pas dans ce roman.
La nuit du second tour, c'est chez Albin Michel et c'est le roman d'Éric Pessant. Dieu, Allah, moi et les autres chez Gallimard, ce n'est pas un roman. C'est un récit tout à fait autobiographique de Salim Bachi, l'auteur du Silence de Mahomet, et de moi, Khaled Kalkal. Il est né à Alger, je le rappelle, en 71. Il avait 20 ans au moment de la guerre civile. Et comme tous les gamins d'Algérie, écrit-il dès les premières pages, je vivais dans la crainte de ne pas être assez bon pour échapper au châtiment du grand méchant Allah. À l'école non plus, je n'échappais pas à la question. En classe, nous apprenions l'arabe en récitant le Coran. Pour lire le Coran, il fallait connaître l'arabe. Et pour connaître l'arabe, le Coran, un cercle arabo-islamo-vicieux. La suite est le récit de ce qu'il appelle, Salim Bachi, sa libération, c'est-à-dire le rejet de la religion de ses ancêtres, la difficulté de vivre dans son pays, quand on est comme lui catalogué, je cite, « athée crypto-communiste », et son arrivée en France en 1995. D'ailleurs, grâce à l'entremise d'Olivier Todd, il faut dire que c'était l'époque où Todd écrivait sa bio d'Albert Camus, avec des pages incroyablement d'actualité sur Alep, et sur l'armée de Bachar et celle de Daesh, qui, écrit Bachi, semble s'être entendue pour ne rien laisser de la Syrie antique et arabe. C'est à qui détruira le mieux ce pays. Dieu Allah, moi et les autres, de Salim Bachi chez Gallimard. Arnaud ?
Au secours. Au secours, là. Vraiment. Ah oui, non. Bon, déjà, le titre, Dieu Allah, moi et les autres. Pas les autres et moi, non ?
Oui.
Non. Moi et les autres.
C'est vraiment... Non, mais il a raison, Arnaud. C'est racoleur. C'est pas possible.
C'est incroyable, quoi. Un titre, non, vous imaginez ce titre.
Vous êtes dingue.
C'est du racolage sur la voie. Moi et les autres, mais...
Ouais, oui.
Quand même. Et alors, il y a un bandeau.
Tu crois pas qu'il y a un tout petit peu d'humour là-dedans? C'est pas un peu ironique?
Je sais pas, en tout cas, parce que moi, j'ai vu qu'il y avait en plus... Je l'ai reçu avec un bandeau, Gallimard, sur lequel il y a écrit une leçon d'athéisme. Alors là, les bras m'en tombent, vous voyez. Une leçon d'athéisme. Déjà... Moi, les leçons, j'aime pas trop. Voilà. Déjà, en soi, j'aime pas trop les livres qui font la leçon.
Non, c'est pas, oui.
Voilà. Alors, la leçon d'athéisme, là, franchement, je vois mal. Vraiment, je vois mal. Je sais pas qui rédige chez Bandeau, ce qu'ils ont dans la tête chez Gallimard.
C'est pas lui, mais c'est pas lui.
C'est pas lui, mais c'est quelqu'un l'a fait, ce Bandeau. Une leçon d'athéisme. Vous voyez ça, déjà.
Ce titre est une erreur.
Mais ce livre est pas loin d'être une erreur aussi, d'ailleurs.
Absolument. Mais l'histoire ne t'a pas intéressé, le parcours qu'a suivi ce garçon?
C'est un parcours, il est malheureux.
Oui, il est malheureux. Il
fait partie d'une génération.
Il est fatigué d'être malheureux.
Oui.
Mais c'est vous qui êtes fatigué d'être malheureux.
Il est fatigué. Non, il a fait quelque chose de son malheur.
Attends, on le serait à moins. Si vous voulez. Attends, on le serait à moins. Excuse-moi, quand même.
On le serait à moins.
Oui, on le serait à moins. Oui, oui. On le serait à moins. Oui.
Il est malheureux. De là à, excuse-moi, mais cracher sur son pays d'origine, l'Algérie, c'est ce qu'il fait. Vraiment,
il est très en colère.
Un pur crachat contre l'Algérie. Moi, je comprends que cet homme soit très malheureux, parce que je pense qu'on est très malheureux quand on déteste à ce point son pays d'origine. Et vraiment, il est arrivé à une détestation incroyable de l'Algérie et une adhésion qui me semble tout aussi incroyable, d'une certaine manière, en tant que Français, à la France. Voilà ce que je lis. Et franchement, oui, quelqu'un vous raconte son histoire. Vous l'écoutez, c'est ce qu'on fait. Hein. Je suis lecteur, j'écoute quelqu'un qui me raconte son histoire, avec ses histoires de cul, etc.
Bon, il y a voilà.
Si, c'est l'histoire de cul. Mais
ouais. Parce que les rames...
Oui. Alors, il est en France...
Avec quoi, tous les bouquins sont des bouquins
voilà, mais c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est pas ce qu'il y a de moins intéressant dans le livre, et c'est pas ce qu'il y a de moins réussi, les histoires de cul.
Les rapports entre les filles et les garçons quand il était jeune, c'est un problème.
Mais c'est comme quand vous êtes au bar, où il y a un mec, un pochetron, vous voyez bien, il a deux coups dans le nez, et il va vous raconter toute sa vie. Et vous l'écoutez, quoi. Oui. Vous l'écoutez, c'est tout. Moi, sa vie, ça ne m'intéresse pas.
Eh ben, tu vois, non, dans son livre, tu vois, dans son livre, Salim Bashi, j'imagine qu'il a pensé à quelqu'un comme toi. C'est-à-dire qu'à un moment, il dit, il met en garde.
Je dois
en
être disant, parmi les autres, ce qu'il appelle les autres.
Non, non, attends. Il met en garde en disant que ceux, après toute la description qu'il a faite, et on serait malheureux à moins, en effet. C'est un livre extrêmement courageux. C'est un livre de témoignage.
Il faut arrêter avec les livres courageux, là.
Quand je dis qu'il a pensé quand je dis, Arnaud, quand je dis qu'il a pensé à des gens comme toi...
Éric Pessan, c'est un livre courageux, là c'est un livre courageux. Faut arrêter avec les livres courageux, il n'y a aucun courage à écrire un livre, mais aucun.
Non, là où il n'y a pas de courage, c'est à faire ce que tu fais.
Il y a même plutôt une forme de lâcheté, mon ami.
Non, non, bon. Arnaud, là où il n'y a pas de courage, c'est à faire ce que tu fais. À un moment, Salim Bashi, il pense aux gens comme toi, en disant que ceux qui n'ont pas vécu en Algérie s'abstiennent de le juger, quoi. Tu vois, tu n'as rien vécu de ce que ce type raconte, mais rien, ce qui s'appelle rien. Alors, la moindre des choses quand tu dis que tu écoutes les gens, c'est peut-être de porter crédit à ce qu'ils disent, et surtout quand ils s'exposent comme ils s'exposent. Aujourd'hui, il y a une série de témoignages qui arrivent, alors que ça te déplaise, c'est une chose, mais la réalité est celle-ci.
Non, je connais des Algériens qui ont vécu exactement la même chose que Salim Bashi, et ils n'écrivent pas ce genre de livre contre l'Algérie pour autant.
Ce livre de Salim Bashi rejoint aujourd'hui un courant qui est en train d'arriver, auquel il faut prêter attention, et arrêter d'avoir des postures idéologiques par rapport à ce qu'ils disent, s'intéresser au réel qu'ils décrivent. Il rejoint Kamel Daoud, il rejoint Boualem Sansal, il rejoint Chavordeval. Il est dans ce courant-là. Et ce qu'il dit est extrêmement grave, extrêmement important, et tu n'as pas le droit de te substituer à ce qu'il a vécu pour porter un jugement pareil.
Non, mais je lis le livre. Moi, on m'a demandé de lire ce livre.
Mais je te dis,
je n'ai pas le droit.
Mais
j'ai
non,
le droit de le lire
droit.
Et j'ai le droit d'en penser
non,
ce que je veux.
Non, parce qu'au nom
aussi.
De quoi tu te substitues à ce que ce type raconte de sa vie, qu'on lui a imposé, où il explique en gros
mais
que
moi,
la guerre
c'est attends ça,
où il explique
je lis le livre.
Où il explique
je
que
parle
la guerre
d'un livre je parle de ce que raconte un livre
il explique que la guerre civile en Algérie donc là lui il est éduqué dans la génération post guerre d'Algérie il explique que la guerre civile dans les années 80 en Algérie est née de ce système éducatif là ce qui est pas rien comme description et la description est absolument implacable.
Un système
implacable.
Qui était comme un hôpital psychiatrique.
Hein,
quand il dit
absolument.
Que Alger était un hôpital
absolument.
Psychiatrique à ciel ouvert et habité par un peuple de masochistes, il faut effectivement l'entendre. Surtout que, en plus, c'est très rationnel ce qu'il dit. Il ne part que des faits. Il veut démonter des mécanismes. C'est extrêmement pragmatique.
Je voudrais juste ajouter une chose. On peut le remercier. Moi, je pense qu'il faut remercier ces écrivains qui arrivent là d'un petit peu nous ouvrir les yeux pour ceux qui veulent les ouvrir. Mais
Patricia,
ils nous ouvrent les yeux sur des choses qu'on a pas
que
voulu voir ni entendre.
Du livre de Salim Bashi, Patricia.
Moi, j'ai lu ce livre avec passion. Je trouve que c'est vraiment un livre au cœur battant. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est écrit par quelqu'un qui est outré, mais qui veut mettre un peu d'ordre dans son outrance. Enfin, il sait très bien qu'il est comme ça. D'ailleurs, il le dit. Il est très lucide. Il dit « Je suis dur et fanatique parce que c'est comme ça qu'on m'a élevé. » Parce que il montre bien comment la violence de toute une génération est née là-dedans. Parce qu'on les tapait. Parce qu'à un moment donné, on plante une équerre dans le crâne de l'élève qui ne sait même pas ce qu'il a fait de bien ou de mal. D'ailleurs, à un moment donné, il dit « Je m'en fichais, je ne faisais pas mes devoirs, etc. » De toute façon, on se faisait engueuler. Et s'il aime tant la France, c'est précisément parce que quand il est venu à cause d'une maladie, etc., il a dû venir se faire soigner.
Et grâce encore une fois à Olivier Todd.
Eh bien, il n'en est pas revenu de voir la douceur et la façon dont on pouvait apprendre, parce que le cerveau n'était pas figé par la peur, dont on pouvait apprendre à l'école en France. Et quand il dit, par exemple, qu'il est étranger à Paris, mais chez lui, moi, je trouve que c'est une très belle façon de dire combien il a adopté notre pays. Lui n'a peut-être pas été adopté, mais lui nous a adopté. Et dire pourquoi il a détesté le sien et pourquoi il continue de le détester, tout en rejetant aussi d'ailleurs la faute sur la génération d'avant, sur les pères.
Allez, Jean-Louis.
Moi, je suis un petit peu comme Arnaud, c'est-à-dire j'ai l'ai lu avec intérêt, mais aussi avec gêne. Une gêne qui ne m'a jamais quitté de la première à la dernière page. Cette fatigue dont je parlais tout à l'heure, c'est exactement ça que j'ai ressenti. Un côté presque, je vais pas dire blasé, mais un côté, un métier, quoi. Il a mis en avant un métier beaucoup plus qu'une position de lui vis-à-vis de son pays. Un métier qu'il a acquis en France, effectivement. Je veux dire, c'est un livre qui est traversé, criblé de références culturelles. Dostoïevski, Jean Kelevitch, Joyce, Rilke, Balzac, Malraux,
bon
Camus,
Nietzsche, grâce auquel
Sartre,
il est devenu,
Spinoza. On a envie de dire, mais arrête, attends, t'as pas besoin de tout ça. Parle-nous mais sincèrement, parle-nous
quoi,
de toi.
En quoi ça te... Bah, il parle de lui
non,
du début à la fin.
Ressens... C'est cette fatigue. Contre la barbarie de Daesh, il n'a pas des mots extraordinaires. Il n'est pas allé se les chercher
mais
dans
si,
les tripes.
Parce qu'il va raconter... Il parle d'une parole vivante qui a été déviée.
Moi, j'ai senti un auteur fatigué, parce que ce n'est pas son premier
livre. Il est tout jeune, hein.
Premier livre. Non, mais bon.
Non, mais qu'est-ce qu'il te fout de plus ?
Le chien d'Ulysse, j'avais aimé.
Le
silence de Mahomet, interdit. J'avais aimé. Mais là, à un moment donné, il cite une parole que Jacques Vacher a eue à André Breton. Il lui a dit « Rien ne vous tue un homme comme d'être obligé de représenter un pays. » Rien ne vous tue un homme comme
Jacques
d'être
Vacher,
obligé de représenter
front,
un pays. Le représenter ou le contester, c'est la même chose, en l'occurrence. Là. C'est la même chose. Et je sens qu'il est fatigué de ça. Il est fatigué de ça. Et ça se ressent dans l'écriture.
Il y a une sorte d'acte de contrition, et on sait pourquoi, hein, on sait pourquoi. Eh oui, bah, parce qu'il avait écrit ce texte qui a été très contesté.
Ah bah oui. sur
Raed
Kalka, là.
Oui.
Mais qui était très contestable aussi.
Qui était très contestable.
Si
et donc
veux,
on sent
si
là
bien.
Tout un acte de contrition, voilà. Tout en disant, je suis athée, mais je fais quand même un acte de contrition.
Voilà.
Eh bien moi, encore une fois, je suis comme toi, Jean-Louis, ça me gêne.
Dieu, Allah, moi et les autres, chez Gallimard, c'est Salim Bachy. On termine avec Terreur de Yann Moix, c'est chez Grasset. Un livre, un recueil de fragments, plutôt écrit pendant et après les attentats contre Charlie et Ali Perkacher, avec une idée, il faut le dire, assez ambitieuse, notée uniquement sur la radicalisation, l'islamisation, le nihilisme, les idées qu'il n'a lues et entendues nulle part. Alors, je vais en citer quelques-uns parce que on peut pas résumer ce livre, hein. C'est une série, une succession de pensées, d'impressions. Alors, je le cite là. L'État islamique est en train de devenir un État mental. À mesure qu'il perd du territoire, l'État islamique gagne des cerveaux. Ou encore, ce que nous appelons vivre consiste désormais à se sortir indemne de hasards auxquels nous avons échappé. Ou encore, très juste, il y a tout un développement sur les terroristes qui sont passés de la fiche S à la fiche Wikipédia. Et pour finir, le terrorisme a inventé le soldat sans courage. Donc c'est difficile, encore une fois, de le résumer. Dites-moi ce que vous en pensez, Jean-Louis.
Yann Moix, j'aime bien Yann Moix, c'est un agitateur. Les agitateurs sont très demandés dans le monde agité où l'on vit. Il est un rien foutraque, mais toujours sincère, parfois enfantin. Il a un côté tête baissée. Moi, j'aime bien le genre tête baissée. C'est mon côté cycliste, sans doute, qui veut ça. Là, il nous a fait un livre... dont Jérôme nous dit qu'il est fait de
fragments.
Décousu, le livre. Mais, oui, décousu. Mais il ne s'agissait pas de faire un livre cousu, évidemment.
C'était pas proche, c'était au contraire.
Non, oui, tout à fait. Mais une chose que tu as dite, c'est qu'il voulait dire des choses nouvelles. Moi, j'ai trouvé que l'intérêt de ce livre, ce qui m'a plu, c'est qu'il exprime, il met en mots des choses que nous avons tous éprouvées, au contraire. Mais en même temps que nous n'avons pas pensé, parce que c'est un livre qui ne pense pas. Et c'est pour ça que je parlais d'agitateur. C'est que là, l'agitateur, pour une fois, il est dans un état vraiment de sidération. C'est la sidération. Et on l'a tous éprouvé. Mais c'est en même temps la sidération, on l'a tous eu, et peut-être encore. Mais en même temps, c'est la limite du livre, parce que la sidération interdit de penser. On n'arrive pas mais à pas sortir de l'émotion.
Je ne suis pas d'accord.
Moi non plus.
Je trouve au contraire que c'est une succession de pensées, et dont je dois avouer certaines m'ont étonné, parce que je m'étonnais de ne pas les avoir pensées moi-même à l'époque.
Moi, je trouve qu'il exprime des choses qui existaient dans nos têtes, mais de manière presque infantile. Quand tu vois la dernière page, je voudrais évoquer la dernière page. La dernière page, il y a une phrase qui flotte dans une page blanche, et qui dit...
C'est pas ce qu'il y a de mieux.
Cette phrase, elle est consacrée au prochain attentat qui n'a pas encore eu lieu, vous voyez. Et ça, j'ai trouvé ça d'une puérilité. Ça m'a fait penser à Alexandre Jardin qui, dans un de ses romans, après la phrase « Il fait nuit », avait mis une page toute noire à côté. Vous voyez,
non, mais c'est aussi la fin de Palud où Gide laisse la
place. Il y a quand même un côté
l'idiosyncrasie du lecteur. Allez, Arnaud.
On se souvient que Charles Pasqua, il parlait pas d'ailleurs des mêmes terroristes, mais Charles Pasqua disait il faut terroriser les terroristes. Lui, Yann-Moix a décidé de les théoriser. Alors, théoriser la terreur, par définition, c'est assez dangereux, comme tu le disais, et même voire kamikaze, si on peut oser ce très, très mauvais jeu de mots, parce que, par définition, la terreur, c'est le moment où on ne peut pas raisonner. La terreur, c'est ce qui nous empêche de raisonner, c'est ce qui nous effraie. Or, lui, il décide de raisonner, vraiment, c'est de faire un raisonnement, une espèce de syllogisme, à travers une formule rhétorique qui est le chiasme. Il essaye de raisonner sur la terreur, et par conséquent, par voie de conséquence, Yann Moix montre qu'il n'est pas terrifié, qu'il n'est pas terrorisé, justement, puisqu'il arrive à théoriser. Il dit pas mal d'âneries, à mon sens, très honnêtement. Il dit pas mal d'âneries, mais au moins, en réfléchissant, il prouve qu'il n'est pas terrifié, et il nous fait sortir, nous-mêmes, de la terreur. Quand on lit ce livre, je trouve qu'on sort de la terreur, justement. Il y a même des moments d'humour. Il y a même des moments d'humour, où vraiment, où vous riez, très honnêtement. Moi, il y a une comparaison avec les Beatles qui est absolument hilarante dans ce livre. Alors, il utilise le chiasme, c'est très intéressant, parce que le chiasme, ça vient d'un mot grec qui veut dire le croisement, justement, la croix. C'est intéressant qu'il utilise le chiasme, la figure de la croix, pour lutter contre, entre guillemets, les terroristes. Et c'est une longue histoire, le chiasme. C'est Lautréamont qui renverse dans ses poésies les pensées de Pascal. C'est Guy Debord qui renverse les positions de Hegel dans la Société du spectacle. Et c'est cette formule-là qu'il prend. Alors, il y a des phrases, on a cité quelques-unes, mais moi, j'en ai une, par exemple. Il dit « Coulibaly ne tue pas les Juifs parce qu'il les hait, il hait les Juifs parce qu'il les tue ». Alors, on se dit que c'est bizarre. Est-ce que c'est vraiment juste? Mais à partir du moment où vous posez la question de savoir si Yann Moix dit une bêtise ou pas, vous-même, vous êtes rentré dans la raison. Vous-même, vous êtes sorti de la terreur. Et c'est vraiment la qualité de ce livre, c'est de nous faire réfléchir à ce que raconte Yann Moix, où, encore une fois, à mon avis, à un moment, il y a des pures âneries, voire des pures réalités.
Yann Moix, qui d'ailleurs fait la une de ton journal, le Transfuge, ce mois-ci. Jean-Claude.
Ah ben comme dirait le révérend Michel Crépu, c'est loin d'être inintéressant. C'est un livre c'est un livre vraiment vraiment passionnant. Je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis. C'est-à-dire que il fonctionne par intuition, par fulgurance, il met ça à la sauce dialectique. Donc c'est parfois en spirale, c'est-à-dire il retourne sur des choses qu'il a trouvées, des choses qu'il a sur lesquelles il a percuté, et puis de temps en temps, il part par bond, par cascade. D'un seul coup, il se met à sauter par-dessus quelque chose et il dit des choses, et surtout, c'est un peu comme dans les Tontons Flingueurs, c'est-à-dire qu'il sulfate à tout va, C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les terroristes. Il y a évidemment les terroristes, c'est l'essentiel du livre, mais il y a aussi ce qu'il appelle la pulsion causale qu'avait défini Nietzsche, c'est-à-dire cette façon qu'on a d'essayer de chercher des causes tout le temps et qui de toute façon ne font que traduire notre impuissance. Il s'en prend à tous les débats qui, parce que lui, il les renvoie à leur néant. C'est-à-dire que il décrit très très bien la mécanique de la haine sans frontières et sans limites. Et surtout, ce qui est moi ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que ce terrorisme arrive aujourd'hui dans cette époque-là et que c'est le stade ultime de la société du spectacle. Et la façon dont il raconte ça est tout à fait passionnante. Alors, j'ai des tout petits bémols, parce que je suis pour l'essentiel d'accord avec toi, c'est que la fin est bâclée, qu'il y a trop de citations, il y a à peu près un tiers du livre qui est bourré de citations et on sent qu'il remplit. C'est un peu Philandro et par moment on a l'impression que sa pensée, puisque tu parlais de raisonnement, que sa pensée est une pensée solex, c'est-à-dire que sur le plat, il peut faire illusion, mais dès qu'il va falloir gravir les sommets de la pensée, là, il va caler un peu.
Terreur de Yann Moix, c'est chez Grasset. Patricia ne l'a pas lu, mais uniquement par oubli, je crois.
Par oubli, par omission.
Allez, on passe au conseil. Ben précisément, on va commencer par toi. Et tu vas nous conseiller le livre.
Le nouveau livre de Marie Modiano, qui est chez Gallimard. Ça s'intitule Lointain. Et j'ai trouvé que c'était. En fait, c'est une déambulation. Elle part en tournée. À un moment donné où elle fait du théâtre, elle est en troupe, elle part à travers le monde entier.
Ce qui est une vérité, elle a été comédienne.
Exactement.
Et alors, autant, avant d'être chanteuse.
Évidemment, ça doit l'énerver considérablement, mais si on fait un petit parallèle avec un autre Modiano, on se dit que dans dans le cas de Patrick Modiano, la déambulation est extrêmement restreinte. Là, au contraire, elle sillonne le monde entier. Mais il y a un côté, enfin je trouve qu'il y a vraiment un air de famille, avec un côté perdu et étonné quand elle écrit « Ne venir de rien pour aller nulle part ». Et c'est au fond une fille qui est très seule, qui écrit, mais qui est en même temps, c'est pas un livre nombriliste, c'est-à-dire qu'elle est aussi très à l'écoute du monde et à l'écoute des autres. C'est une écriture comme ça.
Et surtout à l'écoute de Tristan Egolf, qui a été le bref auteur, puisqu'il s'est suicidé très jeune, du Seigneur des Porcheries, qu'elle a aidé à faire connaître et donc à publier aussi chez Gallimard, qui est quand même le personnage fantomatique central du livre.
Mais même quand elle parle de lui et de cette fin horrible, elle le fait d'une façon extrêmement discrète, à distance. Elle est toujours à distance. Enfin, je trouvais que c'était un livre plein de charme.
Lointain, c'est Marie Modiano et c'est chez Gallimard. Le conseil d'Arnaud.
Écoutez, je suis en train de lire un chef-d'œuvre de la littérature. C'est pas un mot que j'emploie quand même à tire-larigot. Alors, il n'est pas made in France, comme dirait Arnaud Montebourg. Il est argentin. Il y a un point commun quand même entre le football et la littérature, c'est qu'il faut toujours se méfier des Argentins. Il s'appelle Rodrigo Fresan. Ça s'appelle Ma part inventée. C'est au seuil. C'est énorme. Hein, c'est pour ça que je suis dedans. Là, ça fait 600 pages. Mais enfin, j'en ai lu la moitié. Soudainement, là, on se dit. Alors, Rodrigo Fresan, il est considéré comme un écrivain pour écrivain. Et c'est vrai que là, c'est un roman où il parle de comment on devient écrivain, justement. Voilà, à partir de l'enfance, il a 53 ans. Et comment il est devenu écrivain. Mais comme un écrivain pour écrivain, on se demande ce que ça veut dire, alors qu'aujourd'hui, quasiment tout le monde écrit. Tout le monde est écrivain aujourd'hui. Donc, cette signification, ça n'a plus de sens, écrivain pour écrivain. C'est un immense livre, extrêmement bien traduit par Isabelle Gugnon, je tiens absolument à dire son nom, parce que c'est un nabokovien, il y a une luxure de la langue, une richesse de la langue, et un humour surtout. Ce qui manque à tous les livres dont on vient de parler, peut-être à l'exception peut-être du livre de Yann Moix, c'est quand même l'humour, et là c'est un chef-d'œuvre d'humour.
Mon conseil, c'est un petit livre qui paraît chez Arléa, qui est signé Jean-Marie Plane, ça s'appelle « Le chemin de Mako », écrivain trop rare selon moi, et ça commence par un huissier de justice qui lui signifie son congé de l'appartement bordelais qu'il habitait depuis 30 ans. Jean-Marie Plane va alors répertorier tous les lieux entre Médoc, Pays Basque et Bordeaux où il a vécu depuis son enfance et où passent les figures de son père qui était un grand professeur et de François Mauriac. C'est merveilleusement écrit. C'est donc Le chemin de Mako chez Zarléa de Jean-Marie Plane. Le conseil de Jean-Louis.
Moi, je vais vous raconter juste une petite histoire. La disparition récente de Michel Déon m'a donné l'envie, comme ça, mais vraiment très forte, de relire tout de suite Les Poneys Sauvages. Je cherche Les Poneys Sauvages chez moi. Impossible de mettre la main sur ce fameux poney. Je vais dans une librairie, je demande Les Poneys Sauvages. On me dit, ah oui, Les Poneys Sauvages, c'est curieux, nous ne l'avons pas, mais vous n'êtes pas le premier à me le demander. Et cette scène s'est répétée dans trois librairies que j'ai faites à Paris et en Normandie.
Quelle tristesse.
Et j'ai fini par me procurer les Poneys Sauvages. C'est une merveille à chaque mot, je dirais. C'est vraiment, c'était le dernier des Mohicans, comme on disait tout à l'heure.
Et des Hussards.
Et des Hussards. Donc, c'est un bonheur parce que c'est un bonheur perdu en même temps, parce qu'on n'écrira plus de cette manière. Et en plus, ça parle quand même du monde, non pas d'aujourd'hui, mais qui préfigure celui d'aujourd'hui.
L'avantage de l'œuvre de Déon, c'est qu'on la trouve en poche, très disponible.
J'ai fini par trouver un vieux
quartzo. Le conseil de Jean-Claude.
La fin d'une trilogie, la trilogie de Laura Alcoba, qui s'appelle La danse de l'araignée. Elle avait fait Manège. Elle avait fait Le bleu des abeilles et elle finit par La danse de l'araignée. Donc c'est une trilogie sur l'exil comme école d'émancipation. Donc elle a été exilée quand elle avait une dizaine d'années. Elle a retrouvé sa mère qui s'était elle-même exilée. Et surtout, elle a correspondu avec son père qui était prisonnier là-bas. À 11 000 kilomètres, elle ne pouvait écrire qu'en espagnol avec son père parce que les geôliers ouvraient toutes les lettres, mais son père l'incitait à lire français et il s'inquiétait, avec la distance de l'océan, de ses progrès en français et tout le livre est d'expliquer comment, acquérant la langue française, elle en a fait un outil d'émancipation, de liberté.
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup Patricia Martin, Arnaud Vivian, Jean-Louis Hézine et Jean-Claude de Raspienjas pour cette émission qui était, comme chaque semaine, présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam. Ce soir, au Charles Trenet, à la technique, il y avait Cédric Châtelus, Jean-Benoît Tétu et Éric Villenfin. La réalisation était de Didier Lagarde. Retenez bien que le prochain enregistrement du Masque, eh bien, ce sera le jeudi 19 janvier. Je vous attends à 20h au studio Sacha Guitry de la Maison de la Radio pour une émission consacrée au cinéma. On parle justement de films dans une semaine. Et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.